Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on ait rien su faire.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue sur Radio B.
Je suis Géraldine et avec moi...
Jude.
Je m'appelle Christophe.
Un petit coucou à David.
On a découvert la radio cette semaine grâce au Délire et à Radio B.
Dans cette émission, on va vous parler des associations qui nous aident.
Radio B, les bonnes ondes.
Tout d'abord, on est allé vous rencontrer pour savoir si vous connaissez bien ces associations.
Comment ça va dans votre vie ?
Ah, ça va, ça peut aller.
Ça va bien.
Ça va, merci.
Ça va très bien.
Ça va bien.
Bah, ça va super bien.
Ça va pas trop mal. Il y a pire que moi.
Mais comment vous gérez l'augmentation du coût de la vie et le coût de l'essence ?
Je la subis.
Eh ben, je vis avec, on n'a pas le choix, donc il faut aller travailler, donc je mets l'essence comme tout le monde.
Alors, l'essence, bah, comme on en a manqué, là, on a tout de suite vu comment il fallait moins servir de sa voiture. Électricité, j'ai pas trop changé ma consommation.
Eh ben, je fais attention à ce que je consomme et puis je fais un peu moins de courses, je fais moins de trajets pour éviter d'avoir les soucis d'essence.
Déjà, il économise un petit peu, il voit ce qui est moins cher, il achète ce qui est moins cher. Et puis pour les électricités et tout, ouais, on fait bien attention.
Comment on gère ? L'électricité, on essaie de moins consommer.
D'accord.
Après la nourriture, faut bien se nourrir. Mais bon, on fait attention aussi à ce qu'on achète.
On fait attention au prix, on regarde les prix avant d'acheter et être raisonnable aussi.
Je fais attention à ce que je consomme et puis je fais un peu moins de courses, je fais moins de trajets pour éviter d'avoir les soucis d'essence.
On se prive sur autre chose, on fait plus de sorties, on fait moins de sorties, on fait plus de resto.
Pouvez-vous nous citer des associations qui donnent des coups de main face à ça ?
J'en connais pas. Je connais pas d'association qui veut vous aider.
Non, désolé.
Non.
Je dirais... À part les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire.
Il y a tout ce qui concerne l'aide alimentaire, déjà. Hein. Et puis, sur le logement, je ne connais pas. Les Restos du Cœur, le Secours Populaire, il y a Tremplin ici.
C'est le Restos du Cœur ?
Ouais, je sais pas, Secours catholique, Croix-Rouge, qui est au niveau d'alimentation, je pense.
Des associations qui peuvent vous donner des coups de main face à ça, face à l'augmentation de la vie. S'il y en a, effectivement, on les connaît pas assez. Les Restos du Cœur, les Emmaüs, la Croix-Rouge, comment ils s'appellent aussi, on les connaît pas assez, en tout cas.
On voit que certaines personnes ne connaissent pas du tout ces associations qui donnent des coups de pouce.
Ça ne m'étonne pas, elles sont nombreuses quand même.
D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le Délire ?
On vous explique tout.
Bonjour Camille et Albert, vous êtes chargée d'accompagnement au Délire.
Bonjour.
C'est quoi le Délire ?
Alors le Délire, c'est une association qui a pour but de faciliter l'accès aux loisirs, donc pour les personnes dans l'Ain particulièrement, dans l'insertion et les quartiers prioritaires de la ville. Après, il est aussi, surtout une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans différents départements. Donc ici, c'est l'insertion et les quartiers prioritaires, mais il y a aussi deux autres branches, donc on appelle ça des pétales, dans le handicap et la santé.
Quel est votre rôle au Délire ?
Alors moi, du coup, je suis chargée d'accompagnement au Délire et mon rôle, c'est d'accompagner en fait les personnes. Après, on a différentes missions aussi selon les bénéficiaires et le public. Par exemple, en insertion, on marche sur différentes phases. Déjà, on est en contact avec plusieurs partenaires comme les CHRS, les CPH, etc. Avec les travailleurs sociaux. Et on voit avec les travailleurs sociaux et le bénéficiaire en premier lieu ce qu'il souhaite faire. Enfin, soit il y a des bilans, soit ils viennent directement en phase 1 dans des séances d'activité physique. En général, ça peut être aussi de la culture. Dans ces séances, le but, c'est de, de mettre en place un projet avec la personne et le travailleur social pour être en adéquation avec ses besoins, ses ressources, ses envies, parce que le but, c'est aussi que la personne se fasse plaisir. Et à l'issue de cette première phase, donc, le but, c'est aussi de découvrir différentes activités physiques. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi au niveau de la reconnexion avec son corps, avec les autres. Plein de choses comme ça, c'est super important en fait, l'activité physique ou la culture, les ateliers de culture, c'est un levier en fait. Et après, le but, c'est que la personne émerge des envies, des désirs et qu'elle puisse, avec ce travail dans ses ateliers, ses séances, pouvoir s'ouvrir à un loisir avec son projet personnalisé, enfin, j'aime pas trop dire projet personnalisé, mais en gros, c'est son envie à lui, son projet, voilà. Et après, ça peut être selon les endroits, donc en insertion, c'est souvent la personne qui fait son chemin, mais par exemple, en santé, des fois, il y a des gens qui sont en groupe, qui vont dans des clubs, des choses comme ça. Après, ça peut peut-être se faire aussi en insertion, mais voilà, donc voilà.
Qu'est-ce que vous proposez aux personnes ?
Alors, le lundi, par exemple, il y a des séances d'activité physique. Donc, c'est du multisport. Le but, c'est pas de faire un cycle où les gens s'attachent aux séances et qu'après, ils restent. Le but, c'est qu'après, eux, ils prennent leur envol. Donc, on propose plein de types d'activités physiques. Donc, c'est nous qui encadrons. Les bénéficiaires viennent souvent avec les travailleurs sociaux. Donc, ça, c'est dans l'insertion. Et du coup, il y a des séances voilà, de découverte de l'activité physique. Il peut y avoir du basket, du rugby, enfin plein de choses comme ça. Et le but, c'est que les personnes découvrent et se découvrent et découvrent les autres. Voilà, donc ça, c'est en insertion. Après, en quartier prioritaire, les phases 1, elles sont plus autour de projets, par exemple, de marche. De marcher déjà dans le quartier, ensuite d'aller marcher en dehors du quartier, des choses comme ça. Donc ça peut être avec, par exemple, les femmes du quartier ou les jeunes pour l'emploi, des choses comme ça. Donc on rentre aussi en partenaire avec des personnes autour de l'emploi. Du coup, voilà. Et puis après, on propose des activités comme ça. Il y a aussi, on a fait un atelier écriture. Donc là, où ça peut être un moment super intéressant pour les personnes, en fait, pour s'ouvrir et partager des choses. Voilà, ça, on découvre des gens aussi. Et peut-être qu'ils se découvrent eux-mêmes, je ne sais pas, mais voilà.
Comment le DALIR aide les personnes ?
Eh bien, du coup, c'est à travers toutes ces démarches que le DALIR, en fait, a pour but d'aider les personnes. Après, on les aide et on fait... l'idéal, c'est d'essayer de construire avec eux et que ce soit un travail commun pour que ce soit vraiment quelque chose qui appartienne à la personne pour son futur, quoi.
Merci.
Bah, merci à vous pour vos questions.
Géraldine, tu as pu aussi être accompagnée personnellement pour le travail et le logement.
Le milieu protégé, CAVA, CAT Fatorsac, c'est des organismes, voire des usines, pour aider les gens handicapés à pouvoir travailler en milieu protégé. J'en ai fait l'expérience. Une semaine au CAT, ferme Guénet, où on s'occupait des animaux. Ensuite, au CAVA, collage sur carton, suivi du Fatorsac pendant 12 ans, où j'ai eu aussi des responsabilités. J'ai été interviewée par Interaction de mon expérience. Par la suite, il y a eu Orsac Insertion. C'est des personnes qui nous aident à pouvoir travailler en milieu ordinaire. J'ai fait 2 ans en CAE au lycée Caria, pour de minage. Je logeais dans un appartement de transition pour essayer de me débrouiller seule pour les courses, le ménage, etc. Tout ce que j'ai vécu, j'ai été aidée et eu un coup de pouce par tous ces organismes. Et pour toutes ces démarches, j'ai réussi à trouver en 2010 un emploi en milieu ordinaire dans une école primaire à Tosia, comme agent d'entretien pendant 10 ans. La réussite de mon fils, Benjamin.
Nous aussi, on est aidés pour le logement.
Corinne Paccard a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Corinne Paccard.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la résidence Viria, gérée par Alpha 3A.
Comment fonctionne votre résidence ?
Alors, la résidence accueil, c'est une pension de famille qui accueille des personnes ayant des troubles psychiques. Donc, on permet à ces personnes-là d'accéder à un logement privé. Et il y a toute une dimension collective à travers des activités qui sont proposées aux résidents pour favoriser le lien social.
Comment on arrive à la résidence ?
Alors, pour arriver à la résidence, il faut qu'il y ait une prescription auprès du SIAO qui va faire une orientation. Alors, le SIAO, c'est le service intégré d'accueil et d'orientation. Voilà, donc une prescription par un travailleur social pour effectuer une demande de logement pour les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est soumis à conditions de ressources, bien évidemment. Et en fonction du profil de la personne, il va y avoir une orientation qui est faite par le SIAO. Donc, effectivement, pour les personnes répondant aux conditions de ressources et ayant des troubles psychiques, le dossier de demande peut arriver à la résidence. Et à ce moment-là, on fait une commission, avec une commission d'attribution des logements, avec les partenaires qui sont le prescripteur, le SIAO, et le travailleur social qui a fait la prescription, et plus qu'on est sur les troubles psychiques, un partenariat qui a été créé avec le centre psychothérapique de l'Ain.
Vous accompagnez les résidents au quotidien. Pouvez-vous nous en parler ?
On accompagne les résidents en fonction de leurs besoins, dans les démarches administratives, dans l'accès aux soins, dans leur projet de vie, plus que la résidence peut être seulement une étape dans un parcours résidentiel, donc aussi amener la personne à gagner en autonomie pour pouvoir intégrer un logement autonome. Voilà. Donc on essaye de favoriser l'ouverture sur la cité, de travailler un peu la citoyenneté et puis de pouvoir redynamiser aussi les personnes en leur montrant qu'elles ont tout un tas de capacités et de compétences et de pouvoir être autonomes dans leur vie. Donc cet accompagnement, il est fait par un certain nombre de professionnels, éducateurs. Et au niveau des activités collectives, donc là, on peut créer des partenariats avec des intervenants qui viendront à la résidence ou alors nous irons dans leurs locaux pour faire un certain nombre d'activités.
Quelles animations vous proposez ?
Alors, les animations, je dirais qu'on propose des choses qui sont répétitives sur chaque semaine ou à raison de tous les 15 jours. Donc, des activités qui peuvent aller, des activités de sport, par exemple, avec un partenariat qui a été noué avec le DALIR. Après, régulièrement, on a des activités qui peuvent être des ateliers d'écriture, des ateliers de cuisine aussi bien conduits par notre maîtresse de maison que par la banque alimentaire. On a un projet aussi avec une association éco-solidaire de Châtillon. Donc là, c'est un projet palette, construire avec des palettes récupérées du mobilier. Voilà, donc ça, c'est des activités qui sont récurrentes sur l'année. Et puis après, je dirais qu'on a des activités beaucoup plus ponctuelles qui peuvent être des sorties, donc de loisirs, aller à la base de plein air de Morvel. On a été aussi à Louvarel, voilà. Ça peut être aussi des activités plus culturelles, le cinéma, mais aller aussi visiter un musée. De pouvoir aussi visiter l'église de Brou, par exemple, ça a été fait aussi. Ça peut être de découvrir des savoir-faire qui ont tendance un peu à se perdre. Donc, il y a eu auprès d'un boulanger, le moulin, voir un peu comment on pouvait fabriquer le pain, mais ça peut être aussi la verrerie. Voilà, donc on essaye au maximum de favoriser aussi cette ouverture culturelle, au-delà d'être simplement sur des activités de loisirs. Voilà.
Pourquoi c'est important de proposer des activités ?
Alors, il est important de proposer ces activités pour faire vivre la résidence. Ça fait partie du projet social de la résidence. C'est pas uniquement un accès au logement. Il y a cette dimension sociale de créer du lien. Ça permet aussi, effectivement, de mobiliser les résidents sur un certain nombre d'activités, histoire d'un peu de les remobiliser sur quelque chose, et puis leur donner l'envie aussi, après, tout seul, à travers peut-être des associations extérieures à la résidence. Je pense notamment au GEM, le groupe d'entraide mutuelle, et là, vers une démarche plus individuelle. Ça permet aussi d'enrichir un petit peu la personne, hein, parce qu'on lui permet d'accéder à un certain nombre de lieux, de domaines auxquels peut-être il ne pense pas ou pense que ça lui est interdit. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est apporter un plus. Et puis aussi, c'est aussi surmonter la difficulté financière, parce que un certain nombre de ces pratiques culturelles ou de loisirs peuvent être payantes. Et par rapport aux conditions de ressources de notre public, naturellement, ils ne pourraient pas y accéder. Donc, parfois, on demande sur certaines activités 1 euro ou 2 euros à titre d'engagement, de participation symbolique. Et puis après, la prise en charge, elle est faite par le budget de la résidence accueil. Je rajouterais aussi que sur l'été, on a aussi une mutualisation des sorties qui est faite avec les autres pensions de famille d'Alpha 3A. Donc les maisons relais, qui sont au nombre de 3, Saint-Genis, Oyonnax et Ambérieu. Et là, c'est aussi permettre à nos résidents de rencontrer aussi les résidents des autres structures et de partager des moments très agréables qui restent gravés dans les mémoires et puis sur lesquels on peut avoir un retour parce qu'on fait énormément de photos et puis de parler de souvenirs.
Merci Corinne.
On a aussi découvert l'épicerie solidaire. On a rencontré Mario Violant, sa directrice.
On vous emmène en reportage.
Donc là, vous êtes dans la zone magasin. Vous avez donc derrière vous tout ce qui est produits d'hygiène et d'entretien. Voilà. On a eu un don de produits en vrac. Donc les personnes, si elles le souhaitent, elles peuvent acheter des produits de leur shampoing, je crois, et puis produits d'hygiène d'entretien en vrac. Ensuite, sur les produits secs, donc on a quelques produits locaux.
C'est quoi une épicerie solidaire ?
Alors, une épicerie solidaire, c'est une structure généralement associative, mais elle peut être aussi portée par un CCAS qui va accompagner des personnes en difficulté financière et qui va du coup leur permettre d'avoir accès à une alimentation saine et équilibrée à des prix réduits. Du coup, les personnes vont pouvoir générer une économie et pouvoir financer un projet. Mais c'est aussi, au-delà d'un magasin, c'est un accompagnement global de la personne, par exemple autour de la nutrition, autour de l'alimentation et autour d'ateliers qu'on peut proposer aux bénéficiaires.
Qui peut avoir accès ?
Alors, les personnes qui pourront accéder à l'épicerie solidaire, ce sont des personnes qui vont rencontrer des difficultés financières. C'est bien sûr sur condition de ressources. On a une grille, d'accès, un barème. Ce sont des personnes qui auront quand même un reste à vivre, qui pourront acheter les produits. Donc, comme on dit très souvent, on n'est ni sur l'urgence, ni sur la grande précarité. Mais voilà, c'est des personnes qui, à un moment donné, vont rencontrer une difficulté, une réparation voiture un peu plus chère que prévu, une facture d'électricité un peu plus chère. Donc, l'accès à l'épicerie leur permettra vraiment d'économiser et de pouvoir honorer ces factures. Et c'est toujours des personnes pour qui c'est très important de choisir les produits, puisque les personnes là, on est comme un petit magasin de quartier, ils peuvent choisir les produits. Et puis surtout, l'acte de payer, ça fait vraiment partie de la dignité humaine de pouvoir payer ce qu'on consomme en fait et ce qu'on a voulu acheter au niveau nourriture.
Est-ce que vous vendez tout ?
Alors la question, je peux la comprendre de deux manières. Oui. C'est est-ce qu'on vend tout ? Oui, on ne fera jamais de dons, c'est-à-dire que nous, l'épicerie, on vend tout. Voilà, il y a toujours un prix de vente, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit des produits d'hygiène ou des produits d'entretien. On vend à prix réduit, mais en effet, on vend les produits. On ne donnera jamais de produits aux personnes. Après, il y a des produits, la question on peut la comprendre d'une manière. Est-ce qu'on arrive à écouler tous nos stocks ? J'ai envie de dire malheureusement non. Il y a certains produits, quand on arrive en particulier sur les produits frais, où on a des dates à respecter, des dates limites de consommation. Si ça n'a pas été vendu, par exemple, aujourd'hui, le magasin, quand on va fermer. On réouvre demain, mais s'il y a des dates qui n'allaient que jusqu'à aujourd'hui, on sera obligé de les écarter de la vente et on ne pourra plus les vendre.
Et d'où viennent les produits ?
Alors, on a deux sources d'approvisionnement. On a du don pour près de 65% de nos produits. C'est du don qu'on a auprès de la banque alimentaire, mais aussi auprès de boulangeries et de grandes surfaces partenaires, auprès desquelles nous faisons des ramasses. Et après, nous achetons. On a des financeurs qui nous soutiennent, qui nous permettent d'acheter, donc pour près de 35% des produits qu'on n'aurait pas par ailleurs, que ce soit des fruits et légumes, que ce soit des produits surgelés, par exemple, de la viande, mais également des produits d'hygiène et d'entretien.
Est-ce qu'il existe d'autres magasins comme l'épicerie solidaire à Bourg-en-Bresse ?
Non. En fait, sur Bourg, alors bien sûr, on a d'autres collègues de l'aide alimentaire auprès desquels on se rencontre régulièrement et avec qui nous sommes complémentaires. Hein. Mais après, sur Bourg, nous sommes la seule épicerie solidaire, vraiment sur ce format-là. Après, on a des collègues avec qui on échange régulièrement, mais qui sont sur d'autres villes, soit dans l'Ain, mais aussi au niveau de la région Rhône-Alpes. On a un réseau au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a des rencontres régulières, ce qui permet d'échanger et puis d'apprendre les uns des autres par rapport aux pratiques. Puis ça permet aussi de mutualiser des achats aussi et d'avoir donc des prix intéressants pour certains produits.
Les prix ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Est-ce que vous accueillez plus de monde ?
Alors pour l'instant, on n'accueille pas encore plus de monde. On est toujours stable au niveau des personnes que nous accueillons. On a une crainte plus pour le début d'année 2023. Mais pour l'instant, on arrive à avoir une certaine stabilité. On est encore en capacité d'accueillir si des personnes ont des besoins et qu'elles font une demande auprès d'un travailleur social. Voilà, si le dossier, bien sûr, est recevable, nous, on pourra les accueillir. On a encore de la disponibilité. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à une hausse un peu en retard, on va dire, sur le début d'année 2023. Donc là, vous voyez, on a nos deux caisses où les personnes passent pour ensuite déposer leurs courses et puis payer leurs courses. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un acte qui est important pour les personnes, hein, de pouvoir payer leurs courses, déjà d'avoir pu choisir ce qu'elles souhaitaient et puis de ensuite pouvoir les payer. Et une fois que les personnes, en fait, vous voyez, on a un petit circuit, hein, une fois que les personnes sont passées en caisse, elles vont ressortir par ici.
Vous l'avez compris, il existe plein d'associations pour nous aider en cas de difficulté.
Il ne faut pas hésiter à aller les voir.
C'est la fin de l'émission.
On espère que vous avez appris des choses.
À bientôt sur Radio B.
Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau, bien qu'on ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo, et quelques langues à défaire.